Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de votre fidélité à Géopolitique. La planète bouge dans tous les sens. Brexit, terrorisme, migration, montée des populismes, multiplication des menaces à un président américain qui renverse tous les codes. La tension entre la Russie et l'Ukraine, l'imbroglio syrien, l'affaire Khashoggi, l'Iran, les sanctions, la Chine et comment le rôle de Pékin va évoluer à l'international à l'occasion de la parution de l'année stratégique 2019. Coédition de l'IRIS et Armand Collin, nos invités. Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste des questions de défense, bonjour.
Bonjour.
Et Didier Billion, également directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste du Proche-Orient, bonjour.
Bonjour.
La France a fait ces dernières semaines régulièrement la une des grands journaux internationaux. Le magazine The Economist évoquait la semaine dernière le cauchemar d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que les événements de ces dernières semaines vous inspirent ? Est-ce que vous avez été surpris par le surgissement de cette forme de catharsis sociétale et dans l'expression de ces violences de tous les corps de la société ? Pascal Boniface.
Oui, effectivement, surpris comme tout le monde, parce que je crois que personne n'a venu venir ce mouvement de façon aussi forte, aussi spontanée, et qui a réellement paralysé le pays, et qui a eu un impact international. Et effectivement, vous faisiez allusion à la couverture de The Economist, que l'on peut comparer avec celle 18 mois auparavant, où l'on voyait Emmanuel Macron qui marchait sur l'eau. Et là, c'est l'arc de triomphe défiguré, cassé, et donc le cauchemar de Macron. Un mouvement social de cette importance ne peut pas ne pas avoir de répercussions sur la scène internationale, surtout pour un pays qui se veut actif. Et on voit bien, même si je ne crois pas que les effets sur l'image de la France seront durables, mais en tous les cas, on ne peut pas se déployer à l'étranger lorsque sa propre maison n'est pas en ordre.
Didier Billion.
Oui, alors les conséquences sont quand même assez préoccupantes, même si elles ne sont que passagères. Et je vois dans la presse au Moyen-Orient, en Turquie, les régimes les plus autoritaires qui n'hésitent pas à réprimer leur population avec la plus grande violence, en train de donner des leçons de morale sur la façon dont le président Macron est ébranlé par le mouvement social en cours et surtout par l'utilisation assez massive de la répression. Alors quoi qu'on puisse penser de cette utilisation, il ne manque pas de se féliciter que les donneurs de leçons, je cite en l'occurrence le président Erdogan, que les donneurs de leçons français, eh bien, voient devant leur porte et sur leur territoire des scènes de violence très inquiétantes qu'ils sont eux-mêmes obligés de réprimer. Et donc, la conclusion que tirent ces régimes autoritaires, c'est que finalement, les donneurs de leçons ne sont pas les payeurs.
Jean-Pierre Molny.
Mais moi, j'étais en Europe, là, dans un pays européen la semaine dernière. Ce qui m'a frappé, c'est que j'ai tout de suite été interrogé sur cette question et non pas sur le sujet du séminaire. Et ce que j'ai vu, c'est une interrogation très très forte, effectivement, sur la situation en France et sous l'angle Emmanuel Macron était l'élément stable pour tout le processus à l'heure actuelle d'intégration européenne, et on est à 6 mois des élections européennes, et tout d'un coup, cet élément qui semblait le plus stable dans les démocraties européennes est remis en question, est remis en cause. Et donc une très forte inquiétude de nos partenaires européens sur la situation en France.
Donc inquiétude partout. Quelle question, d'après vous, se pose désormais pour la France à l'international ?
Pascal Boniface. Bon, la France a voulu toujours être un peu leader, et si on reprend une fois encore les couvertures croisées des économies, Emmanuel Macron paraissait effectivement, comme l'a dit Jean-Pierre Molny, comme l'élément un peu novateur qui pouvait rassembler les Européens qui voulaient aller de l'avant et faire face aux multiples défis qui se dressent dans le monde, dont celui de Donald Trump n'est pas le moindre. Et là, effectivement, quand on est aussi encalaminé sur le plan intérieur, on a du mal à se déployer à l'extérieur. Ceci étant, il faut raison garder. C'est un moment, c'est une étape, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. C'est un moment difficile qui interdit à Emmanuel Macron aujourd'hui d'avoir une politique extérieure active, on verra bien en janvier-février ce qu'il en sera. Et donc, il faut être conscient des dangers immédiats, des problèmes immédiats, mais ne pas en tirer des conclusions sur l'avenir, parce que, disons que les atouts et les faiblesses de la France ne sont pas changés structurellement par ce qui se passe aujourd'hui.
Bien sûr, mais alors, d'aucuns dénoncent un défaut d'anticipation stratégique des vraies questions depuis 30 ans. Vous partagez, Pascal Boniface?
En tous les cas, je ne connais pas quelqu'un qui puisse dire véritablement « attention, ça va craquer ». Ou ils l'ont dit de façon un petit peu en lançant des alertes générales. Et effectivement, cette colère sourde du peuple a surpris par sa rapidité et son ampleur tout le monde. Moi, j'avais dit après l'élection d'Emmanuel Macron, c'est que je crois que les résultats du second tour, 66% des voix, avaient masqué celui du premier tour, où la moitié des électeurs s'étaient exprimés contre la forme actuelle de construction européenne et contre les formes actuelles de mondialisation. Et le défi de Macron était de réconcilier ces deux France. Parce qu'il y a deux France, comme il y a deux États-Unis, comme il y a eu deux Royaume-Unis, comme on l'a vu avec le vote à le Brexit, et que, dans un premier temps, Emmanuel Macron a plus travaillé sur la compétitivité économique de la France que sur la réduction des inégalités sociales. Et cela lui a éclaté au visage.
Didier Billon.
Je pense que la situation est évidemment transitoire, que la France continue à posséder des atouts sur le champ international. En même temps, comme dirait le président, nous sommes dans une situation où les postures des premières semaines ou des premiers mois du quinquennat, qui étaient marquées par une volonté de faire valoir la singularité de la France, n'ont pas été suivies d'effet et que les initiatives concrètes manquent un petit peu. Les dossiers sont multiples. Comment résister, ce qui n'est pas simple, à l'unilatéralisme développé par le président des États-Unis? Comment s'opposer aux diktats concernant la dénonciation de l'accord nucléaire sur l'Iran? Comment tenter de relancer un processus sur le dossier israélo-palestinien? La France avait eu, et le président Macron, quelques formules qui allaient dans le bon sens, mais qui n'ont pas été suivies d'effet. Ce que je crains, c'est que la tension sociale en France, même si effectivement elle va se régler, est tellement forte que la capacité d'attention du président Macron et de l'exécutif sur la scène internationale soit réduite au profit d'une concentration sur les problèmes intérieurs. Donc il y a quand même un affaiblissement transitoire, passager de la France, mais néanmoins réel.
Jean-Pierre Molny.
Oui, il y a effectivement un petit bémol par rapport à l'analyse qui peut être faite de par l'étranger sur la situation en France. C'est que finalement, culturellement, la France a la réputation d'avoir un peuple qui se révolte. Mmh. Moi, c'est aussi cette remarque qui m'a été faite. Alors, sans faire référence à 1789, n'oublions pas qu'on avait eu quand même des émeutes très fortes dans les banlieues en 2005. Et donc, ça atténue quand même un petit peu la réaction de nos partenaires étrangers qui se disent, oui, finalement, en France, c'est un peu habituel ce type de réaction. Toute la question, c'est de savoir quelle est l'ampleur exactement du mouvement et quelle distinction, surtout, il faut faire entre la révolte en elle-même et puis les violences qui marquent beaucoup à l'étranger.
Alors, à l'échelle internationale, en cette fin d'année, il nous reste encore quelques jours tout de même, quel est, d'après vous, et chacun, peut-être dans vos domaines, le trait dominant de la situation à l'échelle planétaire, Pascal Boniface?
Oh, très nettement, la crise du multilatéralisme dont Donald Trump est l'un des acteurs principaux, puisque les États-Unis étaient quand même censés participer à un jeu plus multilatéral. Pas tout à fait, mais quand même beaucoup plus, et que Donald Trump rompt de façon très spectaculaire, très visible et voire même violente avec cette règle. Et que le symbole, c'est la dénonciation. Il y a de multiples exemples, l'accord de Paris sur le climat, l'UNESCO, etc. Mais le symbole le plus fort, c'est la dénonciation de l'accord nucléaire iranien qui avait été longuement négocié de façon très multilatérale avec y compris la Chine et la Russie. Et que non seulement Donald Trump a dénoncé, mais en plus dont il veut interdire aux pays qui voudraient continuer à commercer avec l'Iran de le faire s'il n'est pas d'accord. Donc c'est non seulement il dénonce l'accord, mais il voudrait imposer les règles du commerce international aux autres États, y compris à ses partenaires et alliés européens qu'il voit avant tout, en fait, non pas comme des alliés, mais comme des vassaux. Et donc là, c'est un changement fondamental, puisque, en fait, y compris pendant la guerre froide, jamais un président américain n'a donné de telles instructions, de telles injonctions à ses alliés européens.
Alors, crise du multilatéralisme, dénonciation de l'accord sur le nucléaire iranien, Didier Billon, le trait dominant?
Écoutez, au Moyen-Orient, il y a deux éléments qui sont très marquants. Le premier de ceci, c'est que il y a un manque de leadership évident. La région a été ébranlée, nous nous en souvenons, par les révoltes arabes en 2011, 2012, 2013. Nous savons que l'évolution de la situation n'a guère été positive, avec la multiplication des conflits, des guerres, des guerres civiles y compris. Et les pays qui jusqu'alors avaient structuré la région, je pense à l'Égypte, je pense à l'Irak, je pense à la Syrie, sont aujourd'hui, pour des raisons différentes que chacun comprend, totalement incapables d'assumer ce rôle de leadership. Et le pays qui a tenté de prendre cette place dans les mondes arabes, c'est l'Arabie Saoudite. Mais nous savons que l'Arabie Saoudite est traversée pour le moins par un certain nombre de contradictions. Les dernières semaines sont venues pour nous le rappeler, que les initiatives de politique extérieure et notamment de politique régionale prises par l'Arabie Saoudite se sont toutes avérées des échecs et des fiascos. Donc ça, c'est le premier aspect. Laurent Fabius parlait de monde apolaire, et je pense que la formule peut aussi s'appliquer, se décliner au Moyen-Orient. Nous sommes dans un Moyen-Orient apolaire. Et deuxième idée, qui est d'ailleurs corollaire à la première, ce sont l'embourbement des conflits militaires et l'incapacité et des régimes de la région et de la dite communauté internationale de trouver les solutions politiques. Que nous nous trouvions en Libye, en Syrie, au Yémen, il y a une véritable incapacité à promouvoir des solutions politiques. Alors évidemment, les situations sont compliquées, mais il n'y a pas ou très peu d'initiatives, et c'est ça qui est très très préoccupant.
Alors Jean-Pierre Molny, même question, le trait dominant de la situation à l'échelle planétaire, peut-être sur les questions de défense ou autre chose?
Bah, la montée des tensions progressivement, année après année, et sans qu'on voit de cadre pour la résolution des conflits. Là, ça vient effectivement de l'affaiblissement du multilatéralisme et du fait qu'on est en fait soumis aux décisions de Donald Trump. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas véritablement pour l'instant d'acteurs qui émergent pour pouvoir, on va dire, équilibrer la puissance des États-Unis. Là, on a un défaut d'Union européenne qui est évident, et une Chine qui est peut-être un petit peu, on va dire, attentiste pour le moment sur cette question. Encore une fois, de l'équilibre international en général. Et donc avec, effectivement, une montée maintenant, depuis quelques années, des dépenses militaires dans le monde qui suivent effectivement cette tension accrue.
Alors, je remarque qu'aucun de vous n'a cité le Brexit, mais on y reviendra peut-être, non pas peut-être, évidemment. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, Pascal Boniface, la crise du multilatéralisme. On a entendu Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, dans un discours il y a quelques jours à Bruxelles, devant le German Marshall Fund, évoquer évidemment le page qui se tourne quant au monde de l'après-guerre froide. Et on voit bien que les États-Unis compte lui asséner le coup de grâce. Alors, on voit une doctrine, la doctrine de Trump commencer à émerger. Dans ce discours, Mike Pompeo a livré une bataille contre le multilatéralisme, critiqué l'Union européenne, qui fait passer, dit-il, les intérêts des bureaucrates à Bruxelles avant ceux des Européens, critiqué l'ONU, dénigré le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, la Cour pénale internationale. Seule l'OTAN a encore les faveurs de Mike Pompeo. Un commentaire, Pascal Boniface.
Oui, bah il y a une vraie crise, et d'ailleurs on a fêté lundi dernier le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et beaucoup de gens se sont dit qu'il ne serait pas possible de signer telle déclaration aujourd'hui. Est-ce que on serait d'accord pour créer l'ONU aujourd'hhui? Il n'est pas certain, et les États-Unis de Donald Trump ne s'engageraient certainement pas dans l'organisation mondiale. Ils ne vont pas s'en détacher, ils ne vont pas s'en retirer, mais ils vont certainement réduire le budget. Et effectivement, tout ce qui est multilatéral apparaît comme un obstacle à l'équipe de Donald Trump, un obstacle à la toute-puissance américaine et au désir de tout régenter. Et donc, les organisations internationales sont vécues comme des atteintes à la souveraineté américaine. Ceci étant, par, disons, capillarité, il y a également des atteintes au multilatéralisme qui sont faites dans d'autres nations, la Chine, la Russie, mais elles n'ont jamais été attendues pour être beaucoup plus actives de façon positive dans ces organismes. Et Didier Billon parlait de la Turquie, on voit également qu'il y a un peu partout, finalement, par effet d'onde de choc, des replis sur le donjon national, et l'autre apparaît plus comme un danger ou un obstacle que comme une possibilité de coopération. C'est pour cela qu'effectivement, et l'Union européenne elle-même est atteinte de cela. Vous avez évoqué le Brexit, mais on peut parler de l'attitude d'autres gouvernements qui effectivement freinent des cas de fer et qui voient dans l'Europe un guichet auquel on peut aller demander des subsides, mais certainement pas un projet politique dans lequel on pourrait avancer en commun.
Vous parlez là, et ce propos peut-être vise les pays particulièrement d'Europe centrale et orientale.
Oui, bien sûr. On voit bien que j'ai toujours été un peu réticent par rapport à l'élargissement de l'Union européenne dans les années 90, qui a été en fait un affaiblissement du projet politique. Ces pays, pour des raisons historiques, comptent avant tout sur la protection américaine parce qu'ils considèrent que la Russie est toujours une menace. Et en même temps, l'attitude de l'OTAN a crispé la Russie, qui était plus prête à coopérer. Et donc, on est à un cercle vicieux. L'élargissement de l'OTAN, François Mitterrand avait mis en garde, et Georges Kennal, l'inventeur du concept d'endiguement également, qu'un élargissement allait crisper la Russie, c'est ce que l'on voit. Et donc du coup, c'est une motivation supplémentaire pour renforcer l'OTAN et pour dire que la Russie est une menace. On voit bien ce cercle vicieux qui sert parfaitement les intérêts américains, parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, comme par hasard, toutes les instances multilatérales sont mises en cause, sauf l'OTAN, qui, malgré les critiques initiales de Donald Trump, les Américains savent très bien qu'ils en ont besoin, qu'ils ne sont pas dans l'OTAN pour nous rendre service, mais là pour servir leurs intérêts de puissance.
Alors, je rebondis avec vous, Jean-Pierre Molny, sur le rôle de l'OTAN pour les États-Unis.
Ah bah, l'OTAN pour les États-Unis, je pense que c'est aussi un moyen de contrôle sur les sur les Européens. Donc c'est un instrument essentiel pour eux de puissance. On a bien vu c'est toutes ces dernières années qu'en cas d'intervention militaire, les États-Unis ne faisaient pas appel à l'OTAN. En général, ils agissent de manière unilatérale. Mais en revanche, l'OTAN, c'est un moyen de contrôle. Et là, ils se servent, j'ai envie de dire, merveilleusement de la question russe et de la résurgence éventuelle de la menace russe pour faire un espèce de chantage auprès des États européens en disant retenez-moi ou je m'en vais. Et donc, ça aussi, c'est un moyen également de diviser les Européens. Et on le voit très bien avec les pays. Effectivement, ça fonctionne très bien avec les pays d'Europe du Nord. Ça fonctionne très bien avec la Pologne. Ça fonctionne même en partie aujourd'hui avec l'Allemagne.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les Allemands aujourd'hui sont un peu hésitants, notamment, bon, je ne sais pas si on y reviendra après, sur les questions d'autonomie stratégique européenne. Et on voit bien que, notamment, l'armée allemande s'est toujours reconstituée dans l'OTAN. Et il y a une petite hésitation sur les initiatives françaises, parce qu'ils ont peur, finalement, je sais pas si c'est finalement, mais ils ont peur que les Européens, enfin, les Français aillent un peu trop loin sur ces questions-là.
Alors, on y reste sur l'autonomie stratégique. Didier Billon, vous l'irez.
Non, simplement, vous évoquiez dans votre question la situation préoccupante et liberticide des pays d'Europe centrale. C'est un véritable défi. Mais en même temps, ce qui est inquiétant, c'est qu'à l'échelon international, quelles que soient les grandes aires géographiques ou géopolitiques, alors de façon différenciée, mais en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, nous l'avons évoqué tout à l'heure, en Amérique du Sud, nous avons ce raidissement des pouvoirs, nous avons cette tentation du repli, du développement du bilatéralisme avec toutes les limites de cet exercice. Et moi, j'ai été assez frappé par la dernière réunion du G20 il y a deux semaines, où finalement les résolutions qui ont été adoptées sont assez minimalistes. Mmh. C'est vraiment le plus petit dénominateur commun et surtout des pétitions de principe, mais ce qui a marqué le G20, c'est le dîner qui a clos celui-ci, c'est-à-dire un dîner entre les États-Unis et la Chine, et que la Chine qui jouait ou qui prétendait jouer la carte du multilatéralisme semble comprendre qu'aujourd'hui elle ne peut s'appuyer sur personne. J'ai entendu souvent des responsables chinois qui interpellaient l'Union européenne pour leur donner un coup de main, pour faire un bout de chemin ensemble. Ben, ça ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Est-ce transitoire? Est-ce un phénomène structurant pour les 5 à 10 années? Je le crains, et que, en fait, nous assistions à la reconstitution d'un duopole entre d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la République populaire de Chine.
Pascal Boniface.
Oui, effectivement, les Chinois jouent leur carte. Il y a ce fameux piège de Thucydide dans lequel un affrontement entre la puissance montante, la Chine, et la puissance dominante mais déclinante, les États-Unis, conduirait un affrontement. Bon, il y a quand même la dissuasion nucléaire. On n'est plus à l'époque de Sparte et Athènes, mais on voit bien les tentations de guerre commerciale qui auraient un impact total. Et comme l'a dit Didier Billon, effectivement, au final, le G20 n'a pas été un G20, il a été un G2. Parce que ce qui a compté, ça a été effectivement la réunion finale entre la Chine et les États-Unis pour régler un différend commercial que le G20 était censé régler.
Alors la question qui se posera, mais je n'ai pas le temps de vous la... Si, je peux vous la poser, mais je n'ai pas le temps d'entendre vos réponses avant la fin de cette première partie d'émission. La confrontation Chine-États-Unis, est-ce que c'est un risque majeur pour le monde? Mais peut-être on reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur les questions de l'OTAN et de défense européenne. On voit bien, et vous l'avez dit, que Européens et Américains ont peut-être comme jamais, d'ailleurs, une perception différente de l'OTAN, avec une incompréhension qui engendre, on l'a compris, des tensions, lesquelles tensions recouvrent un autre enjeu que la France s'évertue à défendre. C'est celui que vous évoquiez, Jean-Pierre Molny, celui de l'intérêt de voir émerger une Europe plus forte et autonome en matière de défense. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Pascal Boniface, Didier Billon et Jean-Pierre Molny, après le journal. À tout de suite.
Politique. Marie-France Chatin.
Géopolitique à l'occasion de la parution de l'année stratégique 2019, coédition Iris Armand-Collin. Nous recevons Pascal Boniface, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'Iris et spécialiste des questions de défense, Didier Billion, également directeur adjoint de l'Iris et spécialiste du Proche-Orient. Je le disais à la fin de la première partie de l'émission, l'OTAN et la défense européenne, on voit bien que Européens et Américains ont une perception différente de l'OTAN, et on voit aussi des tensions et des opinions divergentes émerger au sein de l'Union européenne quant à la question notamment de l'autonomie stratégique européenne défendue par la France. Pascal Boniface.
Oui, effectivement, il y a non seulement une division, comme vous l'avez dit, entre Européens et Américains, mais surtout entre Européens. Et c'est un peu le paradoxe, c'est que normalement, la protection américaine était indispensable du temps de la guerre froide. Elle l'est moins maintenant. Les dépenses militaires russes, c'est 60 milliards de dollars. Les pays européens de l'OTAN à eux seuls en font 250 et les États-Unis 720. Donc la protection purement militaire, je ne dis pas que la Russie n'est pas un défi stratégique, mais militairement, il n'y a pas une telle menace. Néanmoins, les pays européens se sont habitués à une dépendance stratégique à l'égard des États-Unis, parce que des décennies d'histoire marquent les esprits, et pour les pays qui en plus ont été occupés par l'armée rouge, cette mémoire collective est encore plus forte. Donc pour faire cela, eh bien effectivement, il y a des pays à l'Est, et maintenant l'Italie pour des raisons politiques conjoncturelles, qui disent en dehors des États-Unis, point de salut. Le point d'appui que la France peut avoir, c'est bien sûr l'Allemagne. L'Allemagne qui pourrait être notre partenaire idéal, et le paradoxe c'est que pendant très longtemps, les Français plus ou moins craignait une Allemagne forte. Nous avons besoin aujourd'hui d'une Allemagne forte pour que la France le soit elle-même, pour pouvoir se libérer et peser par rapport aux États-Unis. Mais comme l'a dit Jean-Pierre Molny, on est très souvent en contact à Paris ou à Berlin ou à Bonn avec nos confrères allemands. Il y a une division profonde en Allemagne. À la fois, tous les Allemands sont révulsés par l'attitude de Trump, par sa politique, par la façon dont il traite l'Allemagne. Constat général. Et sur le constat qu'il faut aller faire plus d'autonomie, il y a aussi une sorte d'unanimité. Mais là où les choses pêche, c'est que les militaires allemands ne voient pas d'autre issue que l'OTAN. Dans la carrière d'un militaire allemand, l'armée allemande ne compte pas. Les bons postes, là où il y a beaucoup de galons, là où il y a beaucoup de jeux, etc., on compte vraiment, c'est à l'OTAN. Donc ils ne peuvent pas vivre leur vie, concevoir la vie en dehors de l'OTAN, parce que c'est juste inhérent à leur fonction. Et les experts, eux, académiques ou les stratèges sont d'accord pour aller vers plus d'autonomie. Les politiques sont partagées parce qu'il y a la grande crainte, et l'Allemagne une nation plus commerçante que la France, qui est une nation plus stratégique. Il y a cette volonté d'autonomie et en même temps la grande crainte que, en réaction, les Américains punissent l'industrie automobile allemande, mettent des taxes aux exportations, et que l'Allemagne, qui a un gros excédent commercial à la guerre des États-Unis, penche par là. Et on le voit que même sur des sujets comme l'imposition des GAFA, il n'y a pas d'accord entre la France et l'Allemagne, de peur de contre-réaction américaine à la guerre des exportations allemandes.
Jean-Pierre Molny, un commentaire. Ce sera peut-être l'occasion aussi de parler de ce projet évoqué par Emmanuel Macron d'armée européenne. C'est venu se mettre dans les relations transatlantiques de façon un petit peu épineuse.
Non, je pense que Pascal Boniface a très bien décrit la situation. On a quand même un allié, normalement, sur ces questions d'autonomie stratégique européenne. C'est-à-dire que la première institution qui a parlé d'autonomie stratégique européenne, c'est la Commission européenne. Et donc, je pense qu'il faut absolument, alors on verra avec les élections au Parlement européen, la nouvelle commission, mais il me semble que c'est un point d'appui essentiel sur cette question d'autonomie stratégique européenne.
Avec cette déclaration, l'Europe doit assumer davantage la responsabilité de sa propre sécurité.
Oui, c'est bien et Madame Mogherini, on se moquait un peu de ce poste de haut représentant, disant que, bon, Ashton Carter n'avait pas vraiment brillé par sa présence. Madame Mogherini a été quand même la première à dire que les décisions américaines sur l'accord nucléaire iranien et sur les sanctions commerciales à l'égard des entreprises européennes étaient inacceptables. Mmh. Et c'est elle qui, la première, a évoqué de créer un véhicule spécial pour protéger les entreprises qui voudraient continuer de commercer avec l'Iran. Et donc, on voit là que, de façon organique, de même que l'OTAN conduit à la soumission à l'égard des États-Unis, eh bien, le service d'action extérieure de l'Union européenne conduit à l'autonomie de façon, je dirais, organique, parce que c'est sa culture. Et au bout de quelques années, ça a créé une culture purement européenne qui pense en termes d'intérêt européen de façon très différente. Alors, est-ce que ce véhicule spécial sera mis en place? Est-ce qu'il est réaliste? Mais en tous les cas, il est très intéressant de voir qu'au sein de la Commission, eh bien, cette idée d'autonomie européenne est réellement cultivée.
Alors, oui, Jean-Pierre Molny,
sur l'armée européenne, je réponds à votre question sur l'armée européenne. Alors, effectivement, les déclarations d'Emmanuel Macron ont suscité des interrogations. Parce que, il est évident qu'on n'aura pas d'armée européenne intégrée dans les 5, 10 ans, voire 20 ou 30 ans à venir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est véritablement notamment avant les élections européennes, mobiliser les citoyens sur le fait que l'Union européenne défend les citoyens européens. Ce qui n'est pas perçu comme tel jusqu'à maintenant, alors qu'il y a une demande. Or, si on prend les initiatives européennes à l'heure actuelle pour renforcer l'Europe de la défense, ça s'appelle initiative européenne d'intervention, coopération structurée permanente, revue annuelle de coordonnées en matière de défense, dans des mots qui ne veulent absolument rien dire pour les citoyens. Et si vous voulez parler aux citoyens pour leur dire, voilà, il y a un projet des Européens pour se défendre, bah vous parlez d'armée européenne. Alors après, il faut l'explication de texte derrière, évidemment.
Alors, si vous le voulez bien, Didier Billet.
Oui, moi j'ai des nuances avec mes amis et collègues, c'est qu'effectivement, ces projets sont tout à fait intéressants, mais j'en entends quand même parler depuis de nombreuses années, de très nombreuses années. Et la réalité, c'est qu'il y a peu d'initiatives très concrètes. La situation internationale est fort tendue, les conflits se multiplient. Nous avons évoqué l'Iran précédemment, et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les Européens se sont mis au garde-à-vous devant les exigences de M. Trump, indépendamment des déclarations très fermes de la Commission ou du Service d'Action Extérieure. Concrètement, le fameux véhicule spécial, moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Je puis parfaitement comprendre que l'enjeu est très compliqué, parce que évidemment il y a 27 ou 28 pays qui ont des intérêts divergents, qui ont des approches différentes, et c'est pourquoi je crois que ces projets d'armée européenne, Jean-Pierre Molny disait qu'avant 5 ou 10 ans on n'en verrait pas l'ombre, je crois qu'il est fort optimiste, je crois que structurellement il est impossible avant beaucoup plus longtemps éventuellement d'imaginer une armée européenne. Ce qui m'intéresse, et la seule chose qui m'intéresse, mais ça renvoie à la méthode de construction de l'Union européenne, c'est les coopérations renforcées sur ce sujet comme sur tous les autres. Si nous avons l'illusion qu'on peut élaborer une position commune à 25, 26, 27 ou 28, eh bien je crois que nous nous trompons et que nous nous impuissantons nous-mêmes. Alors évidemment, c'est toujours où l'on place le curseur. Y a-t-il des évolutions ? Oui, effectivement, il y a des évolutions, mais je constate qu'il y a surtout une évolution dans la multiplication des séminaires sur ces sujets. Mais en termes d'initiatives concrètes, je ne vois malheureusement pas grand-chose.
En réalité, justement, si on va dans le détail, l'initiative essentielle, c'est le Fonds européen de défense. Et le Fonds européen de défense, la conséquence, c'est que tous les Européens vont être obligés de bâtir collectivement leurs capacités militaires, c'est-à-dire leurs équipements. Et c'est là que ça inquiète les Américains, parce qu'en réalité, ça met de fait en place une sorte de préférence européenne. Et donc, tout simplement, en termes économiques, c'est là que les Américains y voient une inquiétude, et c'est là que l'autonomie stratégique les inquiète.
On est toujours donc sur les mêmes questions, les questions économiques. On poursuit avec l'OTAN de façon peut-être indirecte la relation entre l'Ukraine et la Russie. On passera au Proche-Orient après à nouveau. On a vu le président de l'Ukraine imposer la loi martiale partielle après l'attaque de la Russie dans le détroit de Kerch et la mer Noire. Ça n'était pas un incident isolé. La sécurité de l'OTAN est-elle en question? Où se situe la solution à la crise avec la Russie, Pascal Boniface?
La sécurité de l'OTAN n'est pas en question, puisque l'Ukraine n'appartient pas à l'OTAN et que donc c'est un événement extérieur à l'OTAN, mais que bien sûr l'OTAN regarde. Alors, comme toujours, les récits sont partagés. La Russie veut manifestement contrôler elle-même et elle seule la mer d'Azov. Et du côté ukrainien, il y a certainement une tentation de Porochenko de dramatiser les enjeux et de tenter quelque chose avant les élections présidentielles de mars, qui ne s'annoncent pas très bien pour lui pour le moment. Et c'est vrai que quand on est en Ukraine, dénoncer le danger russe et appeler au secours l'OTAN est une bonne façon de faire monter sa cote de popularité. Mais la situation est bloquée parce que finalement, il n'y a ni dégradation, les accords de Minsk sont peu ou prou respectés, il n'y a pas un embrasement général entre la Russie et l'Ukraine, et en même temps, on ne va pas non plus vers un règlement définitif, dans la mesure où les accords de Minsk ne sont pas totalement respectés, ni pour l'autonomie accordée à l'est de la région, ni pour l'arrêt total du soutien aux indépendantistes qui est demandé à la Russie.
Et on voit tout de même la Russie pousser ses pions.
Oui, effectivement, elle le fait au fur et à mesure. Mais là, effectivement, le pont qui a été construit entre la Crimée et la Russie est une façon de bloquer un petit peu et de contrôler cette mer. Complètement, effectivement, la Russie avance ses pions parce que les Russes ont fait le calcul qu'il n'y a rien à attendre des Ukrainiens, des Européens, des Américains, et que dans la mesure où les Européens suivent totalement les Américains sur l'affaire des sanctions, il n'y a plus rien à attendre et qu'il faut jouer une politique de force, parce que seule la politique de force paye. C'est le constat qui est fait en Russie aujourd'hui.
Alors, politique de force, quelques mots sur les menaces sur le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, Jean-Pierre Molny. Pour mémoire, ce traité, il a été signé par les États-Unis et ce qui était à l'époque l'URSS en 1987. On a vu Moscou déployer son nouveau système de missiles, le Novator 9M729, en violation du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Un commentaire ?
Bah, là, c'est aussi une question qui interroge sur les relations transatlantiques. Parce que certes, les Russes, effectivement, a priori, ont déployé des missiles qui contreviennent au traité sur les forces nucléaires intermédiaires, mais ils n'ont pas dénoncé le traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Et à ce moment-là, les États-Unis disent « on va se retirer du traité sur les forces nucléaires intermédiaires », alors qu'il faudrait en fait négocier avec la Russie. Mmh. Et donc ça met quand même les Européens dans une situation difficile, d'autant plus que la décision américaine a été prise sans leur avis. Or c'est la question de la sécurité de l'Europe qui est en jeu. Donc ça, c'est encore un événement qui devrait pousser les Européens à avoir plus
d'autonomie. Sans leur avis, sans consultation, sans même
information.
Tout à fait.
Oui, tout à fait.
Les Européens l'ont appris en lisant le journal.
Exactement. Oui, tout à fait. Donc ça aussi, ça devrait pousser les Européens à avoir plus d'autonomie stratégique. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ordre de sécurité qui avait été bâti après la fin de la guerre froide, parce qu'il y a d'autres traités, hein, il y a le traité également sur les forces conventionnelles en Europe, on voit bien petit à petit qu'ils sont en train d'être mis à bas. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait véritablement rebâtir une structure de sécurité pan-européenne où on puisse discuter avec les Russes, que d'ailleurs Emmanuel Macron avait proposé lors de la conférence des ambassadeurs à la fin du mois d'août.
Alors la Russie qui a un rôle majeur en Syrie, Didier Billon. L'imbroglio syrien, il est par ailleurs aussi devenu le sujet majeur de la politique étrangère turque, hein, transformant finalement la vision internationale d'Ankara, ses priorités et son engagement régional. Il a beaucoup affecté ce conflit, la qualité des relations entre la Turquie et ses partenaires occidentaux, particulièrement européens, et une nouvelle crise aux conséquences inconnues couve entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, avec le meurtre du journaliste Khashoggi qui a bouleversé les relations bilatérales entre les deux puissances régionales concurrentes. Est-ce qu'on peut parler de jeu politique régional déstabilisé ?
Oui, totalement. Alors, deux remarques. Tout d'abord, je reviens sur la Russie. Je suis quand même, et nous sommes tous frappés par ce retour de la Russie au Moyen-Orient, alors qui s'est effectivement concrétisé dans un premier temps par son intervention militaire assez massive pour soutenir le régime de Bachar el-Assad, ça c'est incontestable. Mais ce n'est pas le seul aspect de cette politique russe au Moyen-Orient. Je suis frappé par cette capacité de Moscou à s'adresser à tous les interlocuteurs, à tous les pays. Et finalement, à l'échelon international, il n'y a pas tant d'États qui soient capables, sur la scène moyenne-orientale, de s'adresser à tout le monde. Alors, ça s'est concrétisé notamment lors du G20 que nous évoquions tout à l'heure, par cette fameuse poignée de main assez virile entre Poutine et Mohamed Ben Salman, qui était une façon de remettre dans le jeu international le prince héritier saoudien qui avait été un petit peu ébranlé au cours des dernières semaines à cause du meurtre terrible du journaliste Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul. Deuxième chose, sur le jeu régional, évidemment, non seulement, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a un système apolaire, il n'y a plus de pays qui soient capables de prendre le leadership, d'où d'ailleurs la rivalité assez aiguisée entre l'Arabie Saoudite et la Turquie, pas du tout pour des raisons religieuses. L'aspect religieux est totalement secondaire, et d'ailleurs, toutes les belles âmes qui nous ont expliqué depuis plusieurs années que le conflit central structurant la région, c'était sunnite contre chiite. Manque de chance, la Turquie, pour le coup, est sunnite et les Saoudiens aussi. Alors, ce sont des branches différentes de l'islam, mais la question n'est pas là. C'est un jeu géopolitique. On voit bien que la Turquie a réussi, il y a maintenant 2 ans, à se remettre au centre du jeu géopolitique en faisant un tournant à 180 degrés sur la question syrienne, ce qui lui permet de participer aux 10 processus d'Astana, qui lui a permis, avec l'aval de Poutine, d'intervenir militairement sans aucun mandat international sur le nord de la Syrie pour combattre les groupes kurdes. Tout cela en fait un pays qui, évidemment, est redevenu absolument incontournable. Quant à aux tensions avec les puissances occidentales, je crois qu'en réalité, elles sont parfaitement maîtrisées par la Turquie. Il n'y aura pas de rupture avec l'OTAN. Mmh. C'est une garantie de sécurité pour la Turquie, même si évidemment, il y a des tensions. Il y a eu une crise assez réelle au cours de l'été avec les États-Unis, notamment pour des raisons économiques. Eh bien, c'est désormais derrière nous. Non pas la crise économique. L'économie turque a des difficultés structurelles, mais les tensions avec les États-Unis sont à peu près derrière nous. Et quant aux relations avec l'Union européenne, je suis là aussi assez marqué par le fait que lors du mini-sommet d'Istanbul il y a un mois, avec l'aval de Poutine une nouvelle fois, Erdogan a invité le président Macron et la chancelière Merkel. Donc c'est une bonne manière faite aux Européens pour leur rappeler son bon souvenir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que quelque part nous sommes désormais un peu redevables à l'égard de la Turquie, mais je pense que ça permet de fluidifier en partie nos relations avec ce pays, et tant mieux. On sait que les turbulences ont été fortes en 2016-2017, notamment à l'égard de l'Allemagne. Il vaut mieux pouvoir discuter tranquillement plutôt que de s'injurier mutuellement.
Pascal Boniface, un commentaire ?
Oui, effectivement, la Russie est le seul pays qui parle à tous les acteurs, aussi bien l'Iran que l'Arabie Saoudite, aussi bien le Hamas qu'Israël, et donc c'est effectivement sa force dans la région, avec un investissement d'ailleurs militaire limité en Syrie. Les Russes n'ont pas mis grand-chose au pot. Et la Turquie a aussi un élément très important par rapport aux Européens, c'est que l'accord sur les réfugiés a été extrêmement critiqué, mais en tous les cas, il fonctionne, puisque le flot de réfugiés qui avait mis en difficulté pour de multiples raisons et l'unité des pays européens, eh bien, c'est tari et les réfugiés sont en Turquie. Donc la Turquie a une arme et en tous les cas un levier sur les Européens qui est extrêmement puissant.
Alors, quelques mots rapides sur l'Iran, Didier Billon. Est-ce que le président Rouhani parviendra à finir son mandat ? On peut rappeler que 2019 marquera le 40e anniversaire de la République islamique. Comment voyez-vous les choses ?
Le président Rouhani est dans une très mauvaise situation parce qu'évidemment tous ceux qui n'avaient pas baissé la garde et qui avaient critiqué l'accord de 2015, évidemment on le vend en poupe grâce aux décisions unilatérales de l'administration Trump. Les effets économiques des sanctions américaines contre l'Iran commencent à se manifester. En même temps, je crois que le guide a toujours cette posture de Bonaparte au-dessus des différentes factions iraniennes et que pour l'instant le choix n'est pas fait de sortir Rouhani du jeu. Donc est-ce qu'il terminera son mandat ? Nul ne le sait. Il y en a encore pour 3 ans quand même. Mais pour l'instant c'est plutôt la carte de l'unité nationale qui va jouer en Iran, y compris si Rouhani devra en rabattre sur ses prétentions. Malheureusement d'ailleurs, parce que ses prétentions réformatrices n'ont pas aujourd'hui crédibilité et les conservateurs qui n'ont encore une fois jamais baissé la garde, qui sont majoritaires au Parlement iranien, eh bien sont aujourd'hui en capacité d'initiative. Donc tout cela est très inquiétant. Mais dernière chose sur l'Iran, n'ayons pas non plus une vision totalement occidentalo-centrée. Les accords iraniens, notamment économiques, avec de grands pays comme la Russie et surtout bien sûr la Chine, voire quelques autres pays asiatiques, ne sont pas dénoncés et les sanctions ne sont pas appliquées par ces pays. Donc il n'y a pas un isolement total, même si les sanctions américaines ne doivent pas être prises à la légère et encore une fois commencent à marquer leurs effets négatifs sur la population iranienne.
La Chine notamment qui est bénéficiaire du maintien des exportations de pétrole iranien. Alors justement, ça va nous permettre de terminer cette émission, même si la Chine à elle seule vaut un sujet d'émission à part entière. Mais j'ai cette question, est-ce que Donald Trump est en train de changer les données du face-à-face Chine-États-Unis par son approche frontale sur le commerce, Pascal Boniface ?
Non, parce que les Chinois ne vont pas rendre gorge, ils ne vont pas se plier ni se mettre à genoux devant les États-Unis. Donald Trump estime que c'est le meilleur négociateur que la Terre n'ait jamais porté, donc il prend une position de force pour faire céder la Chine. La Chine pourra peut-être faire quelques concessions tactiques, mais ne changera pas ni son régime, ni son mode de production. Et les consommateurs américains ne changeront pas également leurs habitudes par rapport à leurs besoins de produits chinois. Donc il y a une double dépendance économique entre la Chine et les États-Unis. Et Donald Trump ne pourra pas, par la seule magie de son verre ou de son action, modifier cet état de fait.
Mais alors, est-ce que cette confrontation Chine-États-Unis est, d'après vous, un risque majeur pour le monde ?
Oui, c'est bien sûr un risque majeur. C'est surtout le fait, est-ce que Donald Trump va accepter de voir la montée en puissance de la Chine ? Sinon, que va-t-il faire ? Mais il ne pourra pas la bloquer. Donc, soit il accepte une donnée naturelle, soit il va vers l'affrontement, pas affrontement militaire, mais en tous les cas, un simple affrontement commercial aurait des conséquences structurelles négatives pour l'ensemble de l'économie mondiale.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste des questions de défense, et Didier Billon également, directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste du Proche-Orient. Je rappelle donc la parution de l'année stratégique 2019 aux éditions Iris Armand Collin. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Pauline Leduc. À samedi prochain.